Radio Kapi. Le journal, présenté par Lievin Mbwinga.
Mesdames, Messieurs, bonjour. À la une de l'actualité de ce lundi matin, c'est évidemment la situation de Goma ainsi que le Conseil d'urgence de sécurité des Nations Unies. Tenu à cet effet, vous suivez tour à tour le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le secrétaire général adjoint en charge de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, ainsi que la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kouaïkouamba. Sachez déjà que tous condamnent l'agression du M23 appuyée par le Rwanda. Nous dirons aussi un mot sur la visite des membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ils ont palpé du doigt les avancées des travaux de construction des routes de rocade. Notre invité est le député national Eliezer Ntambwe. Il affirme sa désapprobation face à la guerre imposée aux Congolais dans l'est du pays. L'élu de Kinshasa propose que l'Assemblée nationale organise une session extraordinaire pour débattre de cette question. Encore une fois, bonjour. L'actualité de ce matin est évidemment tournée vers Goma, qui s'est réveillée sous les bruits des tirs d'armes qui ont été entendus toute la nuit jusque ce matin, selon des sources sur place. Et cela continue jusqu'à présent. Les mêmes sources renseignent que plusieurs personnes, notamment des cadres, ont déjà quitté cette ville du Nord Kivu, fuyant l'agression du M23. Entre-temps, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU condamnent les offensives de grande envergure que mène le M23 appuyé par les forces armées du Rwanda. En tout cas, ils le reconnaissent unanimement. C'était lors d'un conseil d'urgence de sécurité des Nations Unies tenu hier dimanche à New York. Outre cette condamnation, les États membres permanents et non permanents recommandent à la RDC et au Rwanda de retourner à la table de négociation dans le cadre du processus de Luanda. De son côté, le secrétaire général adjoint en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, exige du M23 et du Rwanda la cessation de toutes les hostilités. Détail avec Billy Ivan Lutumba.
Pour Jean-Pierre Lacroix, la violation de la souveraineté et de l'intégrité de la RDC constitue une atteinte aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Il rappelle que les pays contributeurs et les populations victimes de cette offensive du M23 et le Rwanda attendent une réponse ferme du Conseil pour le rétablissement d'un environnement propice à la poursuite des efforts politiques afin d'une solution durable à cette crise.
La violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC constitue une atteinte aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies. Le retrait des forces rwandaises de l'Est de la RDC doit être effectif. Le plan de neutralisation des FDLR doit être mis en œuvre. Il est encore possible d'éviter le pire, pourvu que ce conseil agisse sans délai.
Face à la détérioration rapide de la situation dans le Nord Kivu, avec la prise de Sake et l'encerclement de Goma par le M23, permis surtout par le soutien actif des forces armées du Rwanda, la majorité de tous les intervenants, parmi lesquels la France, les États-Unis, la Chine, le Danemark, la Sierra Leone, la Slovénie, recommandent à une reprise du dialogue.
Nous appelons le gouvernement de la RDC et le gouvernement du Rwanda à reprendre les discussions diplomatiques sous la houlette du processus de Luanda afin de parvenir à une solution pacifique, pérenne, au conflit dans la région.
Par ailleurs, en appelant à privilégier le processus de Luanda et de Nairobi, tous les États ont insisté néanmoins que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent impérativement être respectées.
Notez que peu avant le début de cette session publique, le secrétaire général des Nations Unies a fait une déclaration dans laquelle il se dit profondément préoccupé par l'escalade de la violence dans l'est de la RDC et réitère sa condamnation la plus ferme de l'offensive en cours du groupe armé M23 et de ses avancées vers Goma au Nord Kivu avec l'appui des forces rwandaises de défense. Dans sa déclaration faite ce dimanche, Antonio Guterres indique qu'au cours des dernières 48 heures, deux casques bleus sud-africains de la MONUSCO et un casque bleu uruguayen ont été tués dans l'accomplissement du mandat qui leur a été confié par le Conseil de sécurité. Des précisions avec Grace Hamzati.
Outre les soldats décédés, 11 autres casques bleus ont été blessés et reçoivent des soins à l'hôpital des Nations Unies à Goma, précise le secrétaire général. Il rend hommage à la bravoure de tous les casques bleus des Nations Unies dans l'accomplissement de leur mandat visant à protéger les civils et à les défendre contre les violences perpétrées par les groupes armés en coordination avec les forces armées congolaises FARDC et la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC, SAMI-RDC. Le secrétaire général rappelle à toutes les parties au conflit les obligations qui leur incombent en vertu du droit humanitaire international. Il rappelle que les attaques contre le personnel des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre. Il appelle ainsi les autorités compétentes à enquêter sur cet incident et à traduire rapidement les responsables en justice. Le secrétaire général réitère son appel à respecter l'accord de cessez-le-feu. Il appelle le M23 à cesser immédiatement toutes les actions hostiles et à se retirer des zones occupées. Il appelle en outre les forces rwandaises de défense à cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC. Antonio Guterres réaffirme le soutien des Nations Unies au processus de Luanda et appelle à une reprise immédiate des négociations dans ce cadre.
Nous allons à présent écouter la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba. Ce que traverse la République démocratique du Congo n'est pas un conflit parmi d'autres, mais une agression délibérée et méthodique contre un État souverain, une violation flagrante des principes fondateurs de cette organisation et une atteinte intolérable à la paix et à la sécurité internationale. Ce sont les premiers mots de Thérèse Kayikwamba Wagner pour le compte de son exposé devant les États membres du Conseil au Conseil d'urgence de sécurité des Nations Unies d'hier dimanche à New York, annonçant l'entrée de nouvelles troupes rwandaises sur le sol congolais hier dimanche par les bornes 12 et 13 à Gisenyi. La ministre a déclaré que la République démocratique du Congo attend légitimement du Conseil qu'il agisse avec fermeté et diligence pour protéger la paix et la sécurité internationale et imposer le droit international compte tenu de son pouvoir. Les propos de la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, nous sont proposés ici par Billy Ivan Lutumba.
Alors que je me tiens devant vous, une attaque d'une gravité inouïe se déroule sous les yeux du monde. De nouvelles troupes rwandaises ont franchi les bornes 12 et 13 du poste frontalier séparant Goma de Gisenyi, pénétrant sur notre territoire en plein jour dans une violation ouverte et délibérée de notre souveraineté nationale. C'est une agression frontale, une déclaration de guerre qui ne se cache plus derrière des artifices diplomatiques. Plus de 3 millions de civils ainsi que des humanitaires sont pris en otage par les agresseurs, utilisés comme des boucliers dans une stratégie cynique de terreur et de chaos. Les signes ne trompent pas, le Rwanda se prépare à orchestrer un carnage à ciel ouvert, avec une brutalité qui rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et que dire de vous, membres de ce Conseil ? Cette agression ne vise pas seulement la République démocratique du Congo. Elle est dirigée contre vous, votre mission, contre vos soldats de la paix que vous avez mandatés pour protéger et non pour être pris pour cible. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, le monde vous regarde, il est temps d'agir. Nous appelons donc ce Conseil à utiliser pleinement l'ensemble des dispositions et mesures prévues par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies afin de préserver la paix et de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo.
C'est fait présenter ainsi, le représentant du Rwanda justifie tout ceci selon ses dires par notamment des défaillances persistantes dans la gouvernance de la RDC ainsi que de la présence de plus de 250 groupes armés nationaux dont le M23 et de 14 groupes armés étrangers y compris le groupe génocidaire FDLR entre autres. Face toujours à cette agression du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est de la RDC, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO demande au Conseil de sécurité d'agir immédiatement pour prévenir la population civile, pour préserver, voulais-je dire, la population civile. Madame Bintou Keïta invite par ailleurs le Rwanda et la RDC à des discussions politiques car selon elle, les accusations mutuelles doivent cesser pour laisser place aux échanges constructifs. On l'écoute dans cet extrait proposé par Grace Hamzati.
Les M23 et les forces rwandaises ont pénétré le site de Munigi ainsi que les abords de la ville de Goma, entraînant la panique et la fuite des populations. Les routes sont bloquées, l'aéroport ne peut plus être utilisé aux fins des évacuations ou des efforts humanitaires. Le M23 a déclaré l'espace aérien de Goma fermé. En d'autres termes, nous sommes pris au piège. Je demande au Conseil d'agir maintenant pour préserver la population civile, les travailleurs humanitaires et l'ensemble du personnel de l'ONU. Aujourd'hui, le M23 a étendu sa présence au Nord Kivu et a progressé encore dans la province du Sud Kivu, dont s'est retirée la MONUSCO en juin 2024. Il a reçu des renforts des fournitures pour consolider ses positions le long de plusieurs axes, tant au sud qu'au nord de Goma. Conformément à son mandat de protection des civils, la MONUSCO a renforcé son appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, l'FARDC, en partageant renseignements, en participant à des exercices de planification tactique et en prenant une part active au combat aux côtés de la mission de la SADC en République démocratique du Congo.
Notez encore que la chef de la MONUSCO appelle à des mandats internationaux contre ceux qui alimentent l'insécurité et commettent les violations des droits de l'homme. Elle appelle également le Conseil à prendre des mesures décisives, y compris des sanctions ciblées contre les auteurs des violations. Aucune exception ne doit être faite, conclut Madame Bintou Keïta. Avant de boucler ce dossier consacré à l'agression du M23 et au Conseil d'urgence de sécurité des Nations Unies sur cette question, sachez que la sous-secrétaire générale des Nations Unies en charge des affaires humanitaires, Joyce Souya, exhorte les membres du Conseil de sécurité et tous les États membres à peser de tout leur poids pour mettre fin aux hostilités dans la partie est de la RDC. Lors de ce Conseil d'urgence de sécurité tenu ce dimanche à New York, la sous-secrétaire générale martèle que l'ampleur des souffrances en RDC requiert une attention urgente. En plus, le sort des femmes, des hommes et des enfants de ce pays ne serait resté ignoré, a-t-elle insisté. Un extrait de cette exhortation de la sous-secrétaire générale en charge des affaires humanitaires nous est proposé ici par Billy Yvan Lutumba.
J'exhorte le Conseil et ses membres à peser de tout leur poids pour s'assurer que le droit international humanitaire soit respecté par toutes les parties. Les civils doivent être protégés. Les sites de déplacement des civils et les infrastructures médicales doivent être protégés. Un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave à ceux qui sont dans le besoin doit être garanti. Alors que nous entamons l'année et que de nombreuses sources de financement sont indisponibles ou retardées pour différentes raisons, un financement adéquat et durable est nécessaire pour permettre l'action humanitaire d'urgence. Face à l'ampleur et la gravité de la situation, nous avons mobilisé 17 millions du CERF pour procéder à des interventions vitales immédiates. Toutefois, que les choses soient claires, des ressources supplémentaires sont urgemment nécessaires.
Dans la suite de ce journal, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont palpé du doigt ce dimanche les avancées des travaux de construction des routes de rocade. La vice-présidente, le rapporteur et le questeur de cet organe délibérant ont exprimé leur satisfaction à l'issue d'une visite guidée par l'Agence congolaise des grands travaux sur cet axe routier de 63 km qui ceinture la capitale de l'ouest à l'est. Plus d'explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Sur ces routes périphériques, ces élus provinciaux ont été conduits par les directeurs provinciaux de l'Agence congolaise des grands travaux de Kinshasa. À travers cette visite partie de l'entrée Lutendele, l'ingénieur Junior Poba a voulu montrer à ses compagnons l'important volume des expropriations à opérer dans la partie urbaine de ces projets. Grâce à la mise en œuvre des axes pénétrants, ces routes seront une solution à la fluidification du trafic dans l'ensemble de la capitale congolaise, a fait savoir le directeur provincial de la CGT. Junior Poba.
C'est un projet qui est porté par les chefs de l'État pour régler les problèmes de circulation dans la ville de Kinshasa. Ce projet se comporte très bien jusqu'à ces jours, dans le respect du planning. Mais il se pose un problème aujourd'hui, le problème d'expropriation. C'est ça même le problème qui nous a poussé en fait d'approcher le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.
Au point de vue de travaux, sur la partie périurbaine du projet qui n'a pas nécessité beaucoup d'expropriation, la couche de base est rechargée quasiment à 100%. Des bordures sont encastrées peu à peu sur toute la linéaire et des trottoirs sont en cours de construction pendant que la stabilisation des talus se pratique. Des avancées qui réjouissent ces membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, comme précise la vice-présidente Germaine Chinyama.
Et puis, manifestation des agents de la société chinoise Great Lakes Cement, samedi 25 janvier dans la province du Tanganyika, une société qui produit du ciment dans la cité de Kabimba, territoire de Kalemie. Ces agents travaillant dans les entreprises de sous-traitance au sein de GLC, notamment au sein des entreprises Sogar et Okapi Global Service, dénoncent entre autres le mauvais traitement dont ils se disent être victimes de la part de ces entreprises. Selon eux, ils travaillent comme journalier depuis plusieurs années sans être engagé. Le point avec Paulin Munanga.
Plusieurs dizaines d'agents en tenue de travail portant des casques et bottes ont manifesté au sein de leurs entreprises. Certains brandissaient des papiers sur lesquels on pouvait lire « Départ des sous-traitants aux gares et au CAPI Global Service immédiatement ». Les manifestants se sont dirigés au bureau de GLC pour rencontrer les responsables de la société et exprimer leur ras-le-bol en ces termes. Nous ne voulons plus de ces entreprises de sous-traitance à Kabimba. Elles nous font souffrir sérieusement que ces deux entreprises partent. Depuis que nous travaillons, nous n'avons jamais eu de contrat de travail. Notre salaire est insuffisant et nous sommes payés irrégulièrement. C'est pour cela que nous demandons de travailler directement avec des Chinois. Pour rappel, au mois de janvier de l'année passée, les agents qui prestaient au sein des entreprises de sous-traitance au sein de la société GLC avaient arrêté le travail. Ils revendiquaient l'augmentation de leur salaire. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, réélu sans surprise avec 87,6% de voix. Alexandre a été réélu dimanche en Biélorussie avec 87,6% de voix, je l'ai dit, selon un sondage officiel à la sortie des urnes, faute d'opposition toléré dans cette ancienne république soviétique qu'il dirige d'une main de fer. Depuis 1994, l'opposition en exil a dénoncé une farce dans un scrutin sans suspense.
L'invité.
Notre invité, le député national Eliezer Ntamboué, il affirme sa désapprobation face à la guerre imposée aux Congolais dans l'est du pays. L'élu de Kinshasa, dans la circonscription de la Lukunga, estime nécessaire à cet instant que l'Assemblée nationale organise une session extraordinaire pour débattre de cette question et proposer des solutions idoines. Eliezer Ntamboué s'entretient ici avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour honorable Eliezer Ntamboué.
Bonjour.
Vous êtes député national élu de la Lukunga. La RDC fait face à la guerre d'agression. Quelle analyse faites-vous de cette situation, surtout dans l'est du pays?
L'analyse que je peux faire de la situation à l'est de mon pays est que nous avons eu le malheur d'avoir des richesses qui attirent la convoitise du monde. Voilà le pourquoi de cette guerre nous imposée gratuitement avec la complicité de plusieurs autres États. Alors, c'est quand même grave. À la mesure où, d'un côté, on veut avoir un Congo, une république démocratique, et de l'autre côté, on suscite des rébellions pour casser l'élan de la démocratie. C'est ce que je déplore.
Quelles sont, selon vous, honorable, les conséquences de cette crise qui sévit dans cette partie du pays?
Les conséquences qui vont en découler, c'est la fragilisation de la jeune démocratie, parce que nous y allons tantôt vers les voies démocratiques. Dans la démocratie, l'accès au pouvoir, on passe par la voie électorale, par les élections. Mais là, du coup, nous voyons les Rwandais utiliser un ancien président d'une institution de l'appui à la démocratie qui est la CENI, l'organe organisateur des élections en RDC, qui devient rebelle et appuyé par quelques personnes. La conséquence, c'est le blocage de la démocratie. J'ai craint un jour que nous puissions en arriver à ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso et dans d'autres pays.
Où certains arrivent même à accuser les institutions de l'indifférence face à cette guerre. Qu'en dites-vous?
Je ne sais pas sur base de quels éléments ils ont fait ces jugements. Bah, chacun se met sur un registre donné pour faire son analyse. Moi, je suis parlementaire. Je connais combien de moyens que l'État met à la disposition de la question sécuritaire. Je dois vous confirmer que tout ce que les Congo gagnent comme argent, au moins 70% de ce que nous gagnons va de l'autre côté. Alors, si on pense que le gouvernement ne fait pas assez, moi, je ne sais pas sur quel registre ils se mettent pour en arriver à cette conclusion-là.
Vous êtes représentant du peuple. Qu'est-ce que vous préconisez pour permettre aux forces de défense et sécurité de la RDC de gagner cette guerre et de pacifier l'Est de la RDC?
Je suis parlementaire, vous l'avez dit. Chacun doit jouer son rôle. Et moi, d'abord, si ça ne dépendait que de moi, le président de l'Assemblée devrait convoquer une session extraordinaire pour siéger sur la question. Je sais que le gouvernement se lance et dans la diplomatie et dans la force militaire. Et de notre côté, en tant que parlementaire, on devrait se réunir pour lever les options. C'est pourquoi je profite de votre micro de demander au peuple congolais de ne pas croire que la situation sécuritaire là ne concerne que les politiques. Parce que ceux qui sont en débandade aujourd'hui ne sont pas des politiques, c'est toute la population. Ceux qui meurent ne connaissent même pas la politique, c'est toute la population. Il est important que nous puissions nous lever comme un seul homme pour dire non à cette agression gratuite qu'on nous a imposée.
Des associations de personnes vivant avec handicap qui venaient de déposer une plainte contre vous, vous accusant des manques de considération à leur égard et de plusieurs autres griefs. Que répondez-vous à ces accusations?
Bon, je pense que comme il s'agit d'une plainte, on va devoir comprendre qu'est-ce qu'on me reproche. Mais je suis quand même content qu'aujourd'hui, les personnes vivant avec handicap ont attiré la convoitise de tout le monde. Depuis que M. Tambo que je suis, j'ai commencé à m'occuper de ces gens-là. Entre moi et les personnes vivant avec handicap, il n'y a rien. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est le contraire. Et je ne peux même pas les en vouloir. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos papas, ce sont nos enfants. Je continuerai à garder la même considération que j'ai pour eux. Mais en ce qui concerne la justice, c'est de leurs droits. S'ils estiment que leurs droits sont touchés, ils peuvent aller saisir la justice et on répondra.
Monsieur le député Eliezer Tambwe, nous vous disons merci.
Merci beaucoup Blaise.
Voilà, c'est la fin de ce journal qui a été dominé par la situation de Goma ainsi que le Conseil d'urgence de sécurité des Nations Unies tenu à cet effet. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Jacques-Yves Molima, à Jude Bilanda et à Dieudonné Nyangasa.